On a de la belle visite en studio avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce. Mais là, avant, Pascal Sévey, ça fait deux fois que tu me teases cette histoire-là. Poursuite d'un million de dollars. Une ex qui s'est inséminée avec les c'est ça, là, avec...
Laisse-moi le dire, je te le dis, c'est trop spectaculaire.
Ouais, c'est ça, vas-y. Donc, raconte-nous ça, parce que c'est invraisemblable.
Posez-vous la question, OK? Comment vous réagiriez dans cette situation? Alors, ça part, et ce n'est pas une série Netflix, en passant, c'est une vraie poursuite de 1 million de dollars qu'un homme a intenté contre son ex-conjointe. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé un embryon qui était congelé pour tomber enceinte de son ex.
Ouais.
Donc, cet homme-là est rendu père d'un enfant avec son ex.
Avec son ex. Puis là, s'il est plus avec son ex, ben c'est peut-être parce qu'il voulait pas nécessairement être en coparentalité avec elle non plus.
Et l'homme a donc dit, ben moi, c'est bien de valeur, mais je poursuis pour 1 million de dollars le médecin du Centre de fertilité de Montréal. Il allègue que la clinique ne s'est pas assurée de son consentement, donc qu'il n'a jamais offert ce consentement-là.
Ben non, c'est ça.
Avant que son ex vive l'implantation de l'embryon. Donc, oui, ensemble, quand ils étaient en couple, ils avaient fait congeler comme ça des embryons. Mais la rupture a eu lieu autour du 3 octobre 2025. Dans la poursuite qui vient d'être présentée à la Cour supérieure, le plaignant lui dit que le transfert d'embryon a été effectué en clinique le 15 octobre. Donc, séparation le 3, 15 octobre,
Tom.
Insémination, sans son accord. L'enfant est né en juin 2026. Okay. Les ex-conjoints ont déjà un enfant de 3 ans. Pendant leur mariage, c'est là qu'ils auraient fait congé les embryons pour usage futur. Plus je lis l'article, plus je lis la poursuite, qu'on apprend, c'est spectaculaire. C'est une signature qui aurait été falsifiée. Donc, toujours selon la poursuite, là,
la signature
du plaignant aurait été falsifiée par son ex-épouse sur le formulaire de consentement de la clinique. Alors, peut-être c'est pour ça que la clinique dit ben, « ouais. consent », mais c'est une signature falsifiée selon lui. Il fait valoir que c'est une mauvaise conduite d'anégligence, que c'est des dommages personnels, moraux, psychologiques. Il vit de la détresse, de la colère. Il a subi un choc. Il estime avoir perdu le contrôle de décisions fondamentales de reproduction affectant sa vie et son futur.
Hey, c'est bien clairement. Non, mais... Puis peut-être que cet homme-là, là, j'ai mis une hypothèse, peut-être qu'il ne voulait pas être père.
Ben, c'est ça.
Puis c'était une raison de la séparation, mais il se retrouve père.
Ah, ben ça, je ne sais pas le pourquoi, mais clairement, il ne voulait pas être père parce qu'il dit qu'il a été placé dans une position de devenir père d'un enfant conçu des suites d'une procédure auquel il n'a pas consenti.
Oui.
Imagine l'enfant aussi. Ouf. Moi, tu sais, des parents qui chicanent là, une séparation puis qui se font suer l'un l'autre. Les dommages collatéraux, c'est pas envers ton ex-partenaire en premier que t'es fait vivre, c'est envers les enfants. Les enfants que
t'as tellement raison.
T'es supposé aimer en passant, là?
Oui.
Puis tu t'es en train de détruire ça, là. La psychologie, le bien-être de ton enfant en faisant suer ton autre partenaire. Moi, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mes parents sont séparés, je te l'ai toujours dit. Moi, mon père, c'était indéniable. Il n'y avait pas un manque de respect à avoir envers ma mère. Puis je pense que c'est ce qui a mené à ce que ça se fasse bien. Imagine, toi, t'es issu d'un couple qui est en séparation. Ton père te voulait pas, ta mère le fait dans son dos.
Et quand on dit qu'on n'est pas tous égaux, hein?
Spectaculaire.
Ben, c'est spectaculaire, certain.
Alors, c'est une sûr. Poursuite en responsabilité.
C'est sûr que cet enfant-là va avoir des carences émotives dans son développement.
Écoute,
c'est clair.
Est-ce qu'on peut être assuré de ça? Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il y a des dommages collatéraux fort probablement qui pointent le bout du nez. Là.
Alors là, tu sais, j'irai pas jusqu'à l'affirmer à 100% ce que je vais dire parce que là, il y a des processus en cours et ainsi de suite, puis il y aura justement à valider des choses. Mais la femme, si tout cela est vrai, a juste pensé à elle aussi là-dedans. Là.
Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu le sais, l'exercice de droit. Là. J'ai toujours été passionnée par ça. Puis là, il y en a un quand même assez important là-dedans. Parce que, bon, c'est une poursuite en responsabilité à l'égard du médecin dans la clinique de fertilité. Mais est-ce que l'enfant peut, en droit de responsabilité, incarner un dommage aussi plus tard? C'est la question qu'on se pose.
Hein, c'est une bonne question, ça.
Je trouve ça super intéressant en termes d'exercice de droit. Là.
Vraiment.
On s'entend, là, c'est triste pour l'humain. Mais bref, c'est une cause qui est à suivre. Puis on dit que ça pose une nouvelle fois beaucoup de questions sur le sort d'un embryon qui est congelé, notamment après une rupture. Puis c'est des enjeux qui aussi sont discutés dans la science parce que là, on essaie tout le temps de repousser les possibles. En 2025, un bébé qui est conçu 30 ans plus tôt a vu le jour. L'embryon avait été congelé en 1994, donc il est né en 2025. Tu sais, la science veut toujours évoluer, veut toujours avancer, mais là...
Non, exactement. On va suivre ça. J'espère que nos services sociaux vont suivre le tout également pour donner les soins et les services à cet enfant-là. Merci, Pascal, pour cette histoire rocambolesque. Il y a quelque chose qui est dans le domaine des naissances aussi. C'est les naissances d'entreprises.
Hein?
On décide de faire naître nos entreprises. C'est bon, hein, mon lien? C'est le teuil. On en jase.
Mais 100% je sais parler. Que t'es de bonne foi.
Puis là, ben, un coup qu'elle est née, elle fleurit, elle grandit, elle prend de l'expansion. Mais là, à un moment donné, on devient soufflé et on dit, ben, à qui je vendrais bien cette entreprise-là?
Tu veux pas être Anguille, là? Tu veux pas qu'il reste...
C'est ça. À qui je voterais bien? À qui je vendrais bien cette entreprise-là? T'sais, comme avec un enfant, tu trouves-toi une blonde. Mais là, trouve-toi un nouveau propriétaire avec l'entreprise. C'est plus difficile. Et pour en parler avec nous, on a Pierre Graff du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Pierre, comment vas-tu?
Très bien. Merci pour l'accueil, Jeff.
Ça fait plaisir. Pierre, dis-moi donc, vous avez commandé une étude justement sur le repreneuriat parce que c'est quoi? C'est à peu près une entreprise sur deux présentement qui se retrouve dans cette situation-là d'essayer de chercher un nouveau propriétaire.
En fait, c'est un peu plus. On est à 76 % des entreprises transférées dans les 10 prochaines années. Et justement, ben, on étudie des moyens de faire en sorte d'accélérer justement la transmission d'entreprises, que ce soit à d'autres sociétés qui peuvent les acheter ou à des personnes tierces. L'enjeu qu'on avait présentement, et on le voyait beaucoup sur le terrain, c'est d'ailleurs un enjeu qui a connu beaucoup de rebondissements au cours des dernières années, c'est qu'au niveau de la fiscalité, je vais donner un exemple, lorsqu'un propriétaire d'entreprise vend son entreprise en intégralité, soit à un concurrent, soit par exemple à une société américaine, eh bien, il bénéficie d'un traitement spécifique au niveau du gain en capital, il bénéficie aussi d'une exonération cumulative en gain en capital et va payer moins d'impôts que si ce même propriétaire d'entreprise vendait par exemple à ses enfants ou en partie de manière progressive à quelqu'un, par exemple, dans son entreprise.
Puis nous, on parle de ça juste en 2026, Pierre. Ouais.
Exactement. Ben là, ça s'applique là, depuis longtemps, la loi. C'est l'article 84.1 de la loi sur l'impôt sur le revenu.
Ben non.
Alors, ça fait pas de sens. À la base, c'est une loi qui existe parce qu'on pensait qu'il y aurait éventuellement des gens qui contourneraient l'impôt de cette manière-là en le transmettant à leurs enfants. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, ben, vous savez, plus on est jeune, moins on a la capacité financière de racheter une entreprise.
C'est clair.
Et en ce moment, ben, ça fait qu'on a soit les entreprises où d'un côté, on a des propriétaires vieillissants qui investissent moins. Donc là, l'économie va en pâtir. Soit c'est racheté par des intérêts étrangers dans ce temps-là. Ben, ça veut dire qu'on perd souvent des emplois. Les profits partent aussi à l'extérieur, ne sont pas réinvestis au Québec. Et dans certains cas, on a aussi des fermetures. Et nous, ben, ce qu'on a démontré avec cette étude, c'est que c'était plus rentable pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de supprimer cette règle-là, puis de faire en sorte qu'on est capable de transférer de manière progressive ou partielle son entreprise, plutôt que de la vendre exclusivement en intégralité, parce que sinon, ben, les propriétaires d'entreprises qui souhaitent vendre en ce moment sont vraiment pénalisés, ce qui fait qu'ils augmentent le prix pour... équilibré avec la pénalité fiscale. Et dans ce temps-là, ben, ça fait qu'il y a de moins en moins d'acheteurs capables d'acheter ça.
Donc, si on retire cette pénalité fiscale-là, qui n'a pas de sens, là, on vient de la décrire, elle ne fait aucun sens, le gouvernement gagnera au change. Donc, on renforcerait le coffre des finances publiques.
C'est là que l'étude économique est intéressante. Il faut savoir que les revenus qui sont liés à cette mesure-là sont environ de 310 millions de dollars au niveau du gouvernement fédéral sur 5 ans.
OK. Okay?
Donc ça, c'est ce que ça coûterait évidemment de l'enlever. Mm-hmm. Par contre, quand on met en place une nouvelle mesure fiscale, ce que ça va apporter, c'est des gains aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a calculé, selon le modèle et des paramètres qui sont d'ailleurs assez conservateurs au niveau de l'étude économique, que ben parce qu'on va transférer les entreprises, parce qu'il va y avoir des gains de productivité, parce qu'on conserve des emplois, etc., etc., eh bien, non seulement le gouvernement fédéral se rembourse, mais en plus, il y a des gains pour les gouvernements provinciaux assez importants. On parle juste pour le Québec de 100 millions de dollars sur 5 ans, en plus dans les caisses du gouvernement du Québec.
D'assurer ou en termes de projection, selon toi?
En termes de projection, c'est notre modèle qui a été fait, comme je l'ai dit. Puis l'économie est un jeu de modélisation. Mais comme je le dis, on a pris des paramètres très conservateurs parce qu'on a une responsabilité aussi envers le type de contenu qu'on produit. Mais l'économiste indépendant avec qui on travaille, qui a validé l'étude, disait que tout était conforme. Et donc, on pense que c'est vraiment une règle qu'il faut modifier parce qu'on est vraiment un point de basculement en termes de transfert d'entreprise. Et il faut vraiment accélérer parce qu'en ce moment, ça ne va pas assez vite.
Bon, on aimerait ça les garder aussi à l'interne, ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là, ces emplois-là. Tu le dis très, très bien. Toi, tu es dans la Jeune Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Récemment, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec a reçu Christine Fréchette. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Elle a fait une allocution et elle a parlé de reprenariat comme étant dans ses priorités pour, si jamais elle est élue, comme prochain gouvernement, mais aussi au sein de la CAQ. Ça semble être quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement dans notre angle mort, mais qui hyper important. Du jour au lendemain, c'est quoi les répercussions que tu vois si on ne prend pas les mesures appliquées, au moins de changement dont tu nous évoques aujourd'hui?
Oui, j'ai suivi ça. Alors, c'est sûr que je reste dans la région de la Capitale-Nationale, bien que je travaille à Montréal et que je me batte beaucoup en région. Puis je salue d'ailleurs au passage le travail extraordinaire que fait l'une des 40 jeunes chambres que j'ai le plaisir de représenter, la Jeune Chambre de commerce de Québec, qui est très, très dynamique. Et en fait, il y a un enjeu qui est immense pour notre économie. Là. On a une économie de PME au Québec. 99% des business sont considérés comme des PME, 1% sont considérés des grandes entreprises. Donc forcément, notre tissu économique repose majoritairement sur ces entreprises-là. Et puisqu'on doit en transférer les trois quarts dans les 10 prochaines années, forcément, si on ne le fait pas bien, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a donc des emplois qui vont être perdus. Et il faut se rappeler que l'économie, c'est un jeu de domino. Quand il y a un domino qui tombe, il y a une succession de dominos qui tombent. Alors, une entreprise qui ferme, c'est des emplois perdus. Donc, c'est des personnes qui payent moins d'impôts, qui consomment moins, qui ont besoin d'aide sociale. Donc, ça pèse des deux bords du côté du gouvernement. Aussi, plus un propriétaire est vieillissant, plus c'est prouvé qu'il va moins investir. Donc, ça veut dire qu'il fait moins travailler les fournisseurs dans la région ou peut-être à travers le Québec, à travers le Canada. Et donc, au final...
On devient en arriérage aussi en termes justement de technologie.
Exactement. Donc, on parle même dans le transfert d'entreprise, en ce moment, beaucoup de dette technologique parce qu'il y a eu tellement d'années où l'investissement au Québec était en retard sur le reste du Canada et évidemment par rapport aux États-Unis, qu'il y a un retard à combler. Et donc, ça veut dire que non seulement on achète une entreprise, mais il faut être prêt à investir pour retrouver un certain niveau de compétitivité. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Donc, fermeture d'entreprise, rachat par des intérêts étrangers, je l'ai mentionné.
Déménagement des sièges sociaux, etc.
Déménagement de sièges sociaux. Et c'est pour ça que les élus ont une responsabilité immense, notamment au niveau de la réglementation plus administrative, ce qu'on appelle le red tape, mais aussi en termes de fiscalité, pour rendre à la fois l'entrepreneuriat, le repreneuriat et l'investissement attractifs. Parce qu'au final, c'est ça qui permet de générer de la croissance et qui ensuite permet de créer de la redistribution comme on le souhaite dans la société québécoise.
Est-ce que si le prochain gouvernement qui est élu ne prend pas en main le reprenariat, on va être rendu au point de bascule, c'est-à-dire qu'il va être trop tard?
Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr qu'au Québec, on voit que la croissance est quand même relativement faible. Alors oui, dernièrement, on a un peu comblé l'écart qu'on avait avec l'Ontario, mais si on regarde vraiment au niveau canadien, l'économie sous-performe clairement par rapport au G20. Et c'est sûr que la raison pour laquelle, malheureusement, on ne performe pas, c'est lié en priorité au fait qu'on n'investit pas assez. Et ça, que ce soit au niveau des nouvelles entreprises qui sont créées, qui sont un moteur d'innovation, que ce soit au niveau des entreprises qui existent et aussi de la qualité par laquelle on est capable de transférer les entreprises et donc d'investir. Parce que juste sur les 10 dernières années, je vous donne un chiffre que je trouve extrêmement important. Ça a été prouvé sur les 10 dernières années au Québec que toutes les entreprises qui ont été transférées ont gagné dans l'année qui a suivi 11,1% de productivité en plus.
Wow!
Transféré à quelqu'un de l'entreprise et
à
l'enfant.
Ou à l'externe, etc.
Mais à l'intérieur du Québec.
C'est ça, au Québec, les entreprises québécoises. Et ça, c'est important. Lorsqu'on sait que les 10 dernières années, la productivité au Canada a seulement augmenté de 0,5%.
Wow, fulgurant.
Donc, ça, c'est 11,4%.
Donc, c'est 22 fois plus.
Quand on sait qu'il faut aller très rapidement pour suivre la technologie et les niveaux de productivité.
Exactement.
Maintenant.
Donc, on a un intérêt à créer un environnement qui est favorable à ce qu'on transfère plus d'entreprises au Québec. Idéalement, on le souhaite à des gens, soit de la famille, puisque 2/3 des entreprises sont familiales au Québec, soit à des employés, soit à des gens de l'externe, mais de garder vraiment les sièges sociaux et la propriété québécoise.
On retient donc que la mesure qui avait été mise en place il y a quelques années pour éviter un genre de débordement ou un risque qu'il y a des entrepreneurs qui flouent le gouvernement, là, puis qui s'en mettent dans les poches en transférant ça aux enfants, entre autres, faudrait qu'elle soit mise de côté. qu'il y ait ce risque-là qui existe, mais que ce ne soit pas la principale cause du pourquoi on ne fait pas les choses et qu'on ne transfère pas les entreprises. Il y a une entreprise au Québec qui était extrêmement connue, appréciée, qui avait été modernisée sur le web. Les enfants étaient impliqués, ils avaient développé l'entreprise. Ils ont toujours voulu racheter. Okay? Puis les parents ont vendu à l'extérieur de leurs enfants parce que, entre autres, il y avait cette technicalité-là. Mm-hmm. Ils n'étaient pas capables de vendre à leurs propres enfants.
C'est très problématique. La famille est déchirée. C'est très problématique. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages hier. Notamment d'une personne parce que le gouvernement fédéral tergiverse en fait depuis 5 ans sur cette règle-là. Ils avaient introduit en 2021 la loi C-208 qui mettait fin à ce régime-là. Et finalement, en 2023-2024, ils sont revenus en arrière avec la loi C-59. Puis on se retrouve dans cette situation où les gens qui ont vendu parce que la législation C-208 permettait justement de bénéficier d'un régime fiscal avantageux, ben finalement n'ont pas eu le droit d'encaisser l'argent et doivent maintenant de l'argent au gouvernement fédéral. Donc, j'ai eu un cas très précis hier où on m'a écrit, puis une mère de famille qui a vendu une entreprise de fenêtres à Saint-Jérôme à ses enfants doit aujourd'hui 200 000 $ au gouvernement parce qu'ils ont changé la loi puis ils sont revenus en arrière. Et ça, c'est pas normal et c'est pas un contexte de prévisibilité fiscale et réglementaire qui est favorable à nos entrepreneurs.
En effet. Pierre Graff, tu sais que le micro de Boulevard Saint-Denis, dont on en jase, est toujours disponible pour toi. Je te souhaite une belle période estivale, mais on se reparle au besoin.
Merci, belle
été à vous deux. Merci beaucoup. Pascal, on va...